Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio qui s'hydrate. Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va ?
Ça va très bien et vous ?
Oui, ça va, je pense que vous en termes d'hydratation vous êtes bien. Vous êtes dans les 1 litre et demi, 2 litres par jour ?
Tout à fait.
Bien. On rappelle aux auditeurs que l'hydratation est importante. On parle de neurosciences dans ces émissions et alors depuis quelques temps, depuis la rentrée, Célia elle s'est dit bon, bah, neurosciences et le cerveau quoi, allons explorer les cerveaux des uns, des autres, faisons des liens d'ailleurs sur comment les interprétations des choses et de notre cerveau en fonction des époques a évolué. Et donc on a parlé de la mythologie. Très intéressant des interprétations qu'on fait encore aujourd'hui qui proviennent de cette époque-là. Et puis là, maintenant, on est sur les artistes. La semaine dernière, vous avez fait ce lien entre la mythologie dans l'art en faisant des explications sur des artistes classiques. On a parlé de Botticelli notamment et de sa Vénus, encore de Caravage et de sa Méduse. On a parlé des artistes modernes et puis vous avez un peu dérapé. Là, vous avez fait une sortie, pas une sortie de route, mais une espèce de prolongation. Puisque c'est tellement passionnant, on n'a pas pu évoquer les artistes contemporains, mais je vous propose de le faire tout de suite.
Alors avec grand plaisir, effectivement, maintenant on rentre dans la période dite contemporaine. Ce que j'appelle contemporain, c'est pas forcément l'art contemporain, même si ces artistes en font partie, mais c'est surtout les artistes de nos jours actuels qui sont donc encore vivants, qui sont bien vivants et qui produisent et qui continuent à réaliser leur art.
Alors, juste avant que vous développiez, parce que cet art contemporain, après vous allez nous expliquer des choses très intéressantes, mais qu'est-ce que c'est l'art ? Moi, vous savez, souvent, il y a des caricatures de l'art contemporain. C'est quoi ? C'est la FIAC qui est... c'est quoi cette foire des...
Art Basel, actuellement.
Voilà. Bon.
FIAC aussi, qui a sévi pendant plusieurs années. Maintenant, il y a Art Basel.
Voilà, on voit tout n'importe quoi. Et par exemple, je ne sais pas, un tableau bleu avec un point rouge. Ah, c'est de l'art, ça vaut plusieurs... Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'artiste ? Est-ce qu'à un moment donné, on coupe pas trop les cheveux en quatre ?
Alors, je pense surtout...
Est-ce qu'on se fout pas de la gueule du monde ?
Alors, il y a art contemporain, j'allais dire, et art contemporain, c'est vrai que je vois, enfin, moi qui ai quelques connaissances, donc de par ma mère qui, elle, est donc commissaire d'exposition et qui s'occupe d'art contemporain, effectivement, on voit beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça nous est arrivé de regarder des œuvres et de peut-être ne pas comprendre le message ou de se dire, effectivement, c'est ce qu'on dit, entre guillemets, foutage de gueule. Après, il y a beaucoup de choses importantes dans l'art contemporain et effectivement, il faut savoir rentrer dans la tête de l'artiste. Il faut savoir interpréter, parfois discuter. Moi, ça m'est arrivé justement donc à l'époque de la FIAC, puisque bon, maintenant, la FIAC est totalement remplacée par Art Basel à Paris. Mais effectivement, pendant des années, il y a eu la FIAC et j'ai eu la chance un jour, grâce à une de mes amies, de pouvoir avoir une visite commentée. De la FIAC. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire la FIAC avec ma mère ou Art Basel. On fait les stands, regarde les galeries qui nous intéressent, les œuvres qui nous intéressent, qui nous interpellent, hein, parce qu'il y a des choses parfois qu'on ne voit même pas parce que ça ne nous a pas interpellé, ce qui est logique, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ces salons, hein. Je vous invite à les faire. Bientôt ils sont à Paris, donc entre le 17 et le 20 octobre. Donc je vous invite effectivement peut-être à aller les voir, à aller vous rendre compte vous-même finalement de ce que l'art contemporain peut proposer. Dans le bon, dans le très bon, et peut-être aussi dans le moins bon, en tous les cas, quelque chose qui ne vous plaira pas. Après, c'est pas parce que ça ne vous plaît pas que c'est mauvais, c'est, en art, c'est j'aime pas, on a le droit de pas aimer, mais on peut pas dire forcément que on ne peut pas dire que c'est mauvais. Et effectivement, pour en venir à cette visite-là, la personne qui nous, le guide qui nous a fait visiter, donc j'étais avec une de mes amies, s'est arrêtée sur certaines œuvres. Qui sont des noms importants, certes. Et ce n'étaient pas des œuvres sur lesquelles je m'étais arrêtée et je me serais dit, en le voyant moi-même toute seule, oui, et alors ? Et quand j'ai eu l'explication, il y a certaines œuvres, du coup, que je me suis mis presque à aimer, du coup, voire vraiment à aimer, parce que j'avais eu l'explication dans la tête de cet artiste-là. Donc je pense que c'est important aussi, lorsqu'on débute, qu'on ne connaît pas l'art contemporain, peut-être de se faire faire des visites guidées, de prendre des visites guidées, je vais y arriver, pour pouvoir justement avoir les références, pour comprendre ce que veut l'artiste, et ce qu'a voulu montrer l'artiste. Et ça, je pense que c'est un point important. Après, effectivement, il y a de tout dans l'art contemporain. Et malheureusement, c'est pas toujours facile voilà.
On peut pas faire ça en cuisine, par exemple. Il y a des artistes culinaires. Alors, ce que vous avez fait, là, il y a un tableau que vous n'aimez pas et on vous explique et du coup, vous aimez. C'est en cuisine. Voilà. Le cuisinier, il a beau vous expliquer qu'il a mis des œufs avec du fromage. Bon.
Effectivement, c'est plus dur.
Parce que ça lui rappelle machin, ça ne va pas vous empêcher de ne pas aimer. On va marquer une première pause parce que là, comme ça, on ne prend plus de retard et je vous laisse développer. C'est dans un instant le retour de cette émission et la pause, c'est tout de suite.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
J'étais sûr que ça allait traiter la discussion. Et c'est ça qui est beau. On parle de mythologie dans l'art. C'est, on va dire, la prolongation, le petit bonus, puisque on n'a pas eu le temps de finir la semaine dernière, la troisième et dernière partie, sur les artistes contemporains.
Alors totalement, c'est vrai que les artistes contemporains, de nos jours, actuellement encore, utilisent les récits mythologiques dans leur art. Alors moi, je vous en ai sélectionné plusieurs que j'affectionne particulièrement. Donc d'abord, il y a Damien Hirst. Je ne pouvais pas faire cette partie-là sans parler de Damien Hirst. Et Damien Hirst, j'avais vu son exposition justement en 2017, qui était une exposition qui avait lieu à Venise lors de la Biennale de Venise de 2017. Donc il était exactement au Palazzo Grazzi et à la Punta della Dogana. Donc c'était une exposition un petit peu, on va dire, en marge de la Biennale, donc il faisait pas partie intégralement de la Biennale. Et effectivement, il avait réalisé une exposition en faisant beaucoup de références à la mythologie. Et on a cette sculpture de Damien Hirst qui est celle du Minotaure. Donc on voit un homme taureau, donc bon, on comprend bien que c'est un taureau, et cet homme taureau, on voit que voilà, on voit le Minotaure, et on voit cette musculature du Minotaure, donc le Minotaure bien musclé, etc., et cette femme en dessous, en train de se faire violer. Il ne faut pas oublier, et la violence avec laquelle la femme est en train de crier, la douleur qu'elle est en train de ressentir, la jambe de la femme qui entoure le torse, si je puis dire, du Minotaure, donc du taureau. Et ce qui se passe, c'est que, effectivement, à l'époque, il faut savoir que déjà le Minotaure se nourrissait notamment de jeunes femmes et de jeunes garçons qui étaient donc envoyés par Égée, d'Athènes, hein, le roi d'Athènes. Et c'est d'ailleurs le fils d'Égée, Thésée, qui va tuer le Minotaure. Mais à l'époque, cette représentation du viol, c'était un petit peu... Damien Hirst a voulu le représenter pour expliquer la violence de l'époque, mais c'était logique. C'est-à-dire qu'il y avait une luxure à ce niveau-là. Il y avait finalement la plupart des femmes, lorsqu'on lit les récits mythologiques, nous en avons parlé dans les premières émissions sur la mythologie, se faisaient violer soit par d'autres humains, soit notamment par des dieux, par des héros, etc. Et ça paraissait logique. C'était en fait une coutume pratiquement de l'époque. Et là, on sent dans cette sculpture cette représentation de violence, de femmes qui crient et finalement d'actes sexuels terrorisants et justement vraiment cette violence. Donc il a voulu vraiment de nos jours se réapproprier le mythe et certainement à sa manière, je le pense, mais il faudrait lui poser la question, dénoncer cela. Il a fait de même avec sa tête de méduse. Lui aussi, il a fait une sculpture de la tête de méduse. Alors lui, il l'a réinterprété d'une autre manière. Certes, il a mis les serpents qui crient, alors que dans Caravage et Rubens, les serpents ne crient pas, ne sont pas violents, ont l'air calmes, ont la bouche fermée. Là, lorsqu'on voit la tête de Méduse de Damien Hirst, on voit ces serpents qui crient, c'est-à-dire qui sont en train d'hurler, qui ont une violence pas possible. Ça, c'est un point important. Méduse en train de crier, avec sa tête sur le côté, qui est en train d'hurler et de crier. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si Méduse s'est transformée en Méduse, en Gorgone aussi terrifiante qu'elle a pu être, au départ, elle était très belle, il paraît. Il paraît qu'elles étaient très belles, les Gorgones. Et puis, Méduse s'est transformée comme cela en raison de la colère d'Athéna, parce qu'elle était jalouse des amours de Poséidon et de Méduse. Sauf que, dans la manière de réinterpréter de Damien Hirst, c'est que la pauvre Méduse n'était absolument pas consentante et la pauvre Méduse se serait faite violer par Poséidon. Et là, elle est en train de crier. On voit sur ce visage les cris d'horreur, d'effroi. En fait, elle est en train de crier parce qu'elle est en train de se faire violer. Et là, il dénonce finalement cette double peine. Le fait de la pauvre, non seulement de s'être faite violer, avec la violence que cela pouvait avoir, mais aussi d'avoir la punition. C'est elle qui se fait violer et c'est elle qui est punie. Donc on voit bien les problèmes que cela, évidemment, peut poser.
Alors ça, cette interprétation-là, je pense qu'elle vous a tous laissé bouche bée, voire secouée. On marque une dernière pause et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Ah bah dis donc, je m'en suis pas remis moi de votre explication, c'est quand même assez terrible. Hein. J'espère que vous étiez là, mais si vous venez d'arriver, vous prenez être en marche, il n'y a pas de souci. On parle de mythologie et d'art avec des artistes contemporains, ils analysent un peu de voilà, ce qui s'est passé dans leur tête au moment où ils ont réalisé ces œuvres. Là on est sur les artistes contemporains, c'est la suite de l'émission de la semaine dernière. Bon, on n'avait pas prévu véritablement d'en dédier toute une émission aux artistes contemporains, mais là quand on voit en plus que vous, enfin quand on écoute et on entend ce que vous nous avez dit juste avant la pause, ouais, j'étais sûr qu'il y avait de la matière. Émission à réécouter. On va pas répéter ce que vous voulez dire. Cela, moi je l'ai entendu une fois, je ne veux pas réécouter une deuxième fois. Mais en podcast à partir de 18h, vous allez voir, c'est terriblement fascinant, ou en tout cas pas fascinant, terriblement intéressant avec Célia Morès. Donc, quelles autres représentations vous pouvez encore nous dépeindre?
Alors, il y a deux photographes que j'affectionne particulièrement. D'abord, il y a les photographes Pierre et Gilles. Hein. J'ai considéré que c'était un photographe parce qu'en fait, ils travaillent ensemble. Mais Pierre et Gilles qui ont notamment fait une représentation d'Achille, la colère d'Achille. Et on voit bien dans leur représentation d'Achille, donc il faut savoir que sur cette photo, Achille, il est représenté de profil. Une jambe un peu pliée, surélevée, en fait, comme s'il était sur une marche. Du côté droit, il y a le bouclier. Du côté gauche, il y a l'épée. Et il a un peu la tête baissée, mais on voit dans son regard un regard affirmé. Et là, on voit Achille en colère, prêt au combat. Faut pas oublier que Achille était très en colère d'avoir perdu son ami Patrocle. Et donc, du coup, il a voulu se venger. Et là, on le voit partir au combat, prêt au combat, mais finalement déterminé comme jamais. Et sur cette photo, Pierre et Gilles arrivent à montrer la détermination de cet Achille-là. En un seul, même pas regard, puisqu'on le voit de profil, on comprend la détermination d'Achille à partir au combat pour venger son ami Patrocle. L'autre photographe que j'affectionne particulièrement aussi, c'est donc Gérard Rancinan, qui est un des maîtres de la photographie effectivement actuelle. Et dans certaines de ses œuvres, il s'est servi finalement des récits mythologiques. En fait, le but, c'est souvent, il prend le passé pour le réinterpréter, alors pour le dire autrement qu'il ne le dirait lui-même, parce qu'il est vraiment passionnant à écouter, et il prend le passé pour réinterpréter avec finalement ce qui se passe de nos jours. Et il y a notamment sa représentation d'Icare, alors il n'a pas appelé Icare bien évidemment, mais on voit donc un jeune homme avec des ailes sur une scène de marché, donc il appelait d'ailleurs cela scène de marché, mais on comprend en tous les cas, lorsqu'on fait un lien avec la mythologie, qu'on connaît les récits mythologiques, qu'il peut s'agir d'Icare, qui a chuté, qui est tombé. Et finalement, là aussi, il a voulu représenter la destinée de l'homme. Est-ce qu'on est maître ou pas de son destin? Est-ce que finalement, ce pauvre garçon qui est mort sur cette scène de marché avec tout éclaté, il n'était pas là au mauvais endroit parce qu'il y a eu une guerre, etc., une explosion? C'est la chute peut-être de l'orgueil parce qu'on a voulu aller plus haut. C'est aussi ce type de choses. Et d'ailleurs, la personne avec qui il travaille, parce qu'il travaille à deux, hein, donc lui est photographe, Caroline Gaudriot, elle est auteur. Et justement, sur un des textes sur le destin des hommes, parce que cette œuvre fait partie, on va dire, de ce qu'on appellerait le destin des hommes, puisqu'ils font une exposition, plusieurs expositions, et là j'ai eu la chance de voir leur exposition évidemment à Nice, curatrice ma mère évidemment, donc j'ai pu avoir accès même à ces explications-là. Et comme le dit Caroline Gaudriot, alors je vais le dire avec mes propres mots pour pas évidemment j'allais dire reprendre ses phrases à elle et puis oublier un de ses mots, mais finalement est-ce qu'on peut avoir comment son destin entre les mains? Et oui, non. En fait, la réponse est oui et oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, bien évidemment, on a notre destin entre nos mains, puisque finalement, nos actes nous déterminent. Donc là, comme Icare, son acte d'aller vouloir aller toujours plus haut, son orgueil, a déterminé sa chute. D'un autre côté, on est aussi dépendant des conditions externes. Il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas contrôler et qui fait que finalement, c'est pas que c'est écrit, mais que quelque part, ça va aussi nous conditionner. Donc on voit bien comment est-ce que des artistes contemporains vont, comme Gérard Rancinant et donc du coup Caroline Gaudriot, mais aussi Pierre et Jules dont j'ai parlé tout à l'heure, mais eux, Gérard Rancinant et Caroline Gaudriot, vont utiliser ce qui se passe aujourd'hui avec évidemment les problèmes écologiques, la marée noire, les problèmes peut-être des guerres, etc., en utilisant les mythes anciens et en les réinterprétant avec effectivement les actualités de nos jours, les actualités actuelles, donc ça ne se dit pas comme ça, mais effectivement c'est pour que vous compreniez bien que c'est toujours, toujours une réinterprétation des mythes. Pareil avec leur œuvre qui sont des hybrides, où là on voit cette appétence vers le vouloir aller toujours plus haut, plus loin, se prendre pour des dieux avec cette intelligence artificielle, dont je vous promets que je vous ferai une émission, alors pas tout de suite.
Oh, moi je l'attends.
Mais durant l'année 2024-2025, une émission, évidemment, cette saison sera dédiée à l'intelligence artificielle. Et là encore, qu'est-ce que l'augmenter? Vouloir avoir les attributs des dieux, peut-être se prendre pour des dieux. Donc là encore, on voit cette réappropriation différente de la mythologie et aussi, finalement, des concepts peut-être anciens de vouloir aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et je finirai par deux autres artistes, notamment par Charbonnel. Alors Charbonnel, lui, fait des sculptures relatives à la mythologie. Poséidon, c'est Poséidon. Mais on voit dans le Poséidon toute la force de ce dieu-là. Donc il représente la force avec une élégance, je veux dire, qui est totalement magique. Donc je vous invite aussi à aller voir sur le site internet, évidemment, Charbonnel, etc., les artistes, pour voir ce qu'ils font. Et vous verrez les interprétations qui peuvent être faites et la beauté de ces œuvres, justement, actuelles. Et je ne parle même pas, effectivement, aussi d'un certain Villas, si je me trompe pas, donc je n'écorche pas son nom, et qui a réinterprété, lui, le mythe de Léda et le cygne, et qui a effectivement considéré que Léda, finalement, était maître de son destin, et que c'est elle, finalement, elle a le cygne dans ses bras, donc c'est comme si elle qui choisissait et ne subissait plus. Donc là aussi, c'est une nouvelle réinterprétation, et l'importance que cela veut dire, c'est que lorsqu'on a affaire à un récit que l'on va lire, on va le réinterpréter à sa manière, et c'est toute la manière dont on va réinterpréter ce qu'on lit qui va évidemment produire une œuvre d'art, en tous les cas, une manière de penser.
Merci beaucoup Célia. Une petite question, est-ce que l'interprétation, en tout cas la signification d'une œuvre contemporaine, ou d'une œuvre d'ailleurs, a une influence sur son prix, sur sa valeur?
L'interprétation?
Ce que veut dire l'artiste? Est-ce que le message ou la signification d'une œuvre a une influence sur son prix, ou c'est juste purement esthétique et visuel? Est-ce que c'est, l'émotion qu'elle se dégage aussi, mais plus on va avoir une émotion, ça va contribuer aussi à la valeur de l'œuvre. Du coup, est-ce que ce que ça veut en dire, ça peut jouer ou pas du tout?
Alors, je pense pas que ce que l'œuvre dit va jouer sur le prix. Je sais qu'au niveau du prix, c'est plutôt effectivement la cote des artistes, le fait.
Oui, on est là. Là, ouais. Là, vous voyez complètement que je suis novice, hein, parce que c'est il y a un
artiste.
Il
y a pas d'œuvre.
Par exemple, quelqu'un qui va peindre, un artiste coté, quelqu'un qui est bien coté, il va sortir, quel que soit ce qu'il va faire, il aura une certaine valeur déjà de base. Mais est-ce que je sais pas, il peint quelque chose et il dit j'ai voulu montrer la beauté de la femme et de son émancipation. Ça c'est une interprétation. Enfin ça c'est une explication. Et de deux il dit j'ai voulu montrer que j'ai fait ça comme ça, j'ai été inspiré. Est-ce que dans la première explication, le fait qu'il ait voulu montrer quelque chose aussi d'inspirant, ça peut avoir plus de valeur sur l'œuvre ou pas?
Je pense pas parce qu'en fait, en tous les cas, je pourrais poser la question à des professionnels, mais normalement non. En fait, c'est la cote de l'artiste. Peu importe finalement quand les personnes qui font les prix des œuvres font les prix des œuvres. Donc c'est l'artiste, les galéristes, le marché de l'art. Ils demandent pas forcément l'interprétation.
C'est pas. Il y a pas de morale en vérité dans l'art. Il y a pas de morale.
C'est pas
fou,
parce
ça.
Que il a voulu passer un message plus important qu'un autre que l'œuvre va valoir plus. ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tous les cas, normalement, ça ne rentre pas en compte. En tous les cas, pour ma part, ça ne rentre pas en compte. Après, il faudrait peut-être demander à des personnes qui sont des marchands d'art, qui pourraient peut-être mieux répondre à la question.
Question pour la docteure en neurosciences que vous êtes et la femme que vous êtes. Faut-il, selon vous, dissocier l'artiste de l'œuvre?
Quelque part, je pense que oui. Alors, c'est vrai que c'est très dur, parce que généralement, lorsqu'on n'aime pas un artiste, parce que, bon, il a des soucis, on va dire, d'actualité, ou alors parce qu'on n'aime pas un artiste, c'est très dur de le distinguer de son œuvre. Après, il faut aussi peut-être être impartial. Alors, c'est très dur parce qu'en fait, comment dire, moi, je pense qu'il faut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut récompenser, qu'il faut, etc. Mais si il fait une œuvre qui est bonne, on ne peut pas dire que c'est mauvais parce qu'on n'aime pas l'artiste. Après, est-ce qu'il doit être récompensé? Est-ce qu'on doit lui faire la publicité, etc. parce qu'il y a un problème avec l'artiste en lui-même? Je n'en suis pas certaine et je ne peux même pas répondre à la question parce qu'il y a un gros souci, c'est qu'on est humain. Et en fait, notre cerveau, malheureusement, fonctionne aussi à l'affectif et ça, on s'y soustraire. On ne peut pas s'y soustraire. On n'est pas des robots, donc c'est pas, on n'est pas binaire. Donc forcément, ça va en faire partie et forcément, ça peut influencer notre interprétation. Ça arrive. Mais j'estime qu'il faut faire attention et non pas forcément, j'allais dire, tout jeter parce que l'artiste ne nous plaît pas ou qu'il y a un problème avec l'artiste, mais peut-être marcher un peu plus sur des œufs et faire attention à ce qu'on... En tous les cas, comment est-ce qu'on en interprète et quelle est la suite à donner?
C'est un sujet délicat. Hein.
C'est un sujet très délicat parce qu'il y a en fait finalement le pragmatisme et d'un côté l'affectif. Et est-ce qu'on doit continuer à passer des films, à montrer tel type d'œuvre d'artistes alors qu'ils ont été condamnés ou pas? Maintenant,
vous l'avez dit dans une émission, dans les toutes premières, d'ailleurs qui faisait référence à la mythologie, même les dieux avaient leur part sombre.
C'est ça, même les dieux avec leur part sombre, on a tous notre part d'ombre, donc après il faut savoir où mettre le curseur. Mais effectivement, bon, il faut pas. C'est vrai qu'on peut avoir des personnes qui font beaucoup de mal, mais qui ont fait aussi peut-être beaucoup de bien, ou qui ont fait de belles choses. Donc c'est aussi peut-être, ça ne veut pas dire qu'on va les excuser, mais c'est aussi de ne pas tout jeter totalement à la poubelle et tout dénigrer. Hein, il faut dire, voilà, ok, ça c'était bien, ça non. Pour ce type de choses, il faut qu'il soit condamné ou pas condamné, ça dépend de la situation, où je n'aime pas la personne parce que c'est pas une bonne personne et à ce moment-là, mais n'empêche que le film qu'il a fait ou ce qu'il a fait dans la vie était bien et à ce moment-là, pas non plus remettre en question cela. Mais c'est très très difficile parce que malheureusement, on est dans l'affectif et on le voit tous les jours. On ne peut pas ne pas réagir par l'affectif. Notre cerveau, finalement, s'il nous permet de réagir, c'est qu'on réagit de manière pragmatique avec notre propre mode de pensée, le cortex préfrontal qui va agir, qui va prendre des décisions, qui va réfléchir, qui va être très pragmatique, très mathématique, presque ordinateur, mais aussi émotionnel. Et c'est ce qui permet de prendre de bonnes décisions. Donc c'est un rapport émotionnel, on ne peut pas l'oublier. Si cette partie émotionnelle ne fonctionnait plus dans notre cerveau, on prendrait des mauvaises décisions, on n'aurait plus les comportements adéquats. Donc là aussi, il ne faut pas oublier le cas de Phineas Cage qui avait eu sa barre qui avait transpercé son cerveau, son cortex frontal et qui continue à fonctionner correctement au niveau, j'allais dire, planification, pragmatisme, calcul, etc. Mais qui avait des comportements totalement inadéquats et avec des relations humaines totalement inadéquates. Donc, ce qui signifie qu'on ne peut pas se défaire de nos émotions. Et c'est ce qui fait la complexité humaine. Et j'allais dire, heureusement, c'est peut-être ce qui nous différencie d'un ordinateur et d'une intelligence artificielle.
Merci beaucoup, Célia. Merci beaucoup. Vous voyez, on a réussi à faire une émission et on aurait pu encore continuer. Si vous venez d'arriver et si vous voulez réécouter aussi cette émission, rendez-vous à partir de 18h ce dimanche, car c'est la mise à disposition du podcast. À la semaine prochaine, Célia.
À la semaine prochaine, Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Moresse. Sur Nutri Radio.